Il est 11h sur votre radio, la nouvelle génération. Vous comprenez que c'est l'heure à laquelle vous avez rendez-vous avec l'émission Club de la Presse. Merci de nous choisir dans cette émission Club de la Presse pour ce jeudi 16 janvier 2025. Les membres du bureau du Conseil régional maritime sont désormais installés. Leur élection a eu lieu hier mercredi à l'occasion d'une session regroupant l'ensemble des conseillers régionaux. À l'issue de ce vote, c'est Edo Comlan, élu dans la circonscription électorale des Lacs et membre du parti Union pour la République Unie, qui a été élu président avec 45 voix sur les 46 votants. Il sera assisté dans sa mission par 4 vice-présidents, dont les deux premiers sont également issus des rangs de l'UNI. Fait surprenant, l'Alliance nationale pour le changement ANC, bien que déclarée en retrait du processus électoral, à ses débuts obtient une place dans le 10 bureau avec l'élection de M. Agbeko et Akladé, candidat déclaré du parti ANC. Il a été élu déjà troisième vice-président après avoir supplanté deux concurrents aussi issus alors de l'opposition, notamment de l'Union des forces de changement UFC et des forces démocratiques de la République FDR. En dehors de ce poste de vice-présidence attribué à l'ANC, les autres sièges sont restés sous le contrôle de l'UNI. C'est ce que nous rapporte le journal en ligne Afrique Presse ce matin. Nous parlerons du sujet dans cette émission Club de la Presse de ce jeudi 16 janvier 2025. Nous aborderons d'autres sujets liés à l'actualité tels qu'évoqués par des journaux parus ce matin. Bienvenue au Club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Coco, Victor Beitouvega est à la mise en onde. Jérôme Dakout assure la mise en ligne. Je suis Pascal Lesso au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Neho, Radio La Paix à Takpamé, Central FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM, nous sommes à Baga, près de Niamtougou, et puis Radio Koktouazi à Dapan. Vous avez aussi le privilège de nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Mais vous pouvez aussi nous suivre sur nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Lébéné. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain, aussi du monde entier. C'est avec nos confrères journalistes en studio. Avec moi, nous sommes au jeudi. Ambroise Konzo est là. Ambroise, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour nos techniciens Michel et Jérôme, bonjour tous ceux qui nous suivent depuis la diaspora, surtout ceux qui sont au Togo, à l'intérieur du pays, dans toutes les villes qui vous suivent ou qui nous suivent actuellement. J'aimerais profiter de cette occasion pour envoyer ce message de sensibilisation aux usagers sur le contrôle des vitesses, sur les grandes voies, parce que c'est important. Quand on rentre dans les milieux périurbains et urbains, la vitesse, le ministère de la Sécurité, la direction des transports routiers et autres ont sorti un communiqué, un arrêté pour limiter les vitesses. Parce que là, vous allez voir des gens courir dans tous les sens, en pleine ville. Alors que c'est dans cette pleine ville que des enfants, des écoles, les écoliers sortent vers 11h30 midi pour traverser la chaussée, traverser la route. Et donc, ils ont bien fait de limiter la vitesse à 40, à 50 de par endroit pour éviter des accidents inutiles. Et donc, que les taximens, ceux qui courent à vive allure pour aller chercher des passagers au grand marché, au retour là, que les gros porteurs, j'ai visé particulièrement les taximens, ceux pourquoi je les ai visés, eux-mêmes le savent. Les véhicules privés aussi qui, des fois pour des raisons de rendez-vous, si tu as un rendez-vous, lève-toi tôt à la maison, quitte la maison tôt pour éviter de créer des grabuges à quelqu'un d'autre qui n'est qu'un honnête citoyen qui passe sur la voie. Donc, le respect scrupuleux de cet arrêté-là qui limite la vitesse en périurbain et urbain est très important. Je ne peux pas te laisser le micro sans saluer un grand frère, ce qui n'est pas habituel, parce que M. Montand, Jean-Pierre, qui a fait la FUSEC pendant longtemps et qui a pris sa retraite il y a de cela 3 ans, je crois, qui nous suit tous les jeudis, pratiquement du lundi au jeudi, surtout les jeudis, je lui envoie un bonjour.
D'accord, merci d'avoir répondu à notre invitation, Ambroise. L'autre qui a répondu aussi à notre invitation, c'est Elon Kossi Tissoubé. Elon, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour Canal FM, mes voeux de bonne année à toutes et à tous, à puisque la direction générale de la radio.
Puisque vous n'étiez pas là
oui,
le jeudi passé.
Oui, effectivement. Voilà. D'abord à la radio, Canal FM, à tout son personnel, et ensuite à tous ceux qui nous sont fidèles au Club de la Presse. Merci pour la fidélité, surtout. Merci de nous supporter, parce que ce n'est pas tout ce qu'on dit ici que les gens prennent plaisir à écouter, il faut le dire. Nous sommes toujours ouverts aux critiques, aux suggestions, aux propositions. On ne peut pas avoir le même point de vue sur les sujets, mais comme l'a dit quelqu'un, c'est de la confrontation des regards que jaillit la lumière. Donc merci et puis bonne condition d'écoute à toutes et à tous.
Merci l'homme Atisobe d'avoir répondu à notre invitation. Et Ambrose, c'est vrai que vous avez commencé par faire un clin d'œil surtout à ceux qui font dans l'excès de vitesse sur la voie. Vous vous intéressez justement à la sécurité routière, mais dans votre journal ce matin, je m'intéresse également à cet appel que vous êtes en train de faire aux usagers. Vous écrivez, chers usagers, cédez le passage aux élèves et aux enfants qui traversent la chaussée.
Oui, c'est un message important. Nous nous sommes donné ce devoir de faire notre part. C'est-à-dire que c'est Barriga, Monseigneur, qui disait chacun n'a qu'à faire sa part. C'est ça. Parce que nous sommes quotidiennement sur la chaussée et nous voyons ce qui se passe. Et des fois, il y a de l'incivisme accru de la part de certains usagers très indélicats. Je dis bien des indélicats. Des fois, et très souvent, dans le lot de tout ça, il y a deux gros indélicats. Ils ne sont pas tous dedans, mais deux gros indélicats. Les taximens, je précise ça. Si vous voyez les taximens, je n'ai rien contre eux. Mieux encore, ce sont mes amis. Si vous voyez les taximens, vous allez voir. Jetez un coup d'œil sur les taxis. Le devant. Les devants là. Les d'abord là. Vous allez voir que c'est de faire un bloc cassé. Vous savez pourquoi?
Pourquoi?
Parce que c'est des gens qui ne respectent rien sur la route. En tout cas, ils sont nombreux. Leur grand problème, leur objectif, c'est d'atteindre un objectif. Aller chercher des passagers. Et faire au moins 4-5 tours dans la journée avant que la nuit tombe. C'est ça même le nœud du problème. Le fait de vouloir chercher à tout prix l'argent, il crée des grabuges, des problèmes à d'autres usagers sur la voie. Et quand tu le dis, ils s'en foutent. Il y en a même, tu ne sais même pas, bon, je vais me garder de dire ça, c'est-à-dire qu'il y en a même qui ne devaient pas être allumés. Sur le principe, ils ne devaient pas être allumés.
Donc pourquoi?
Mais pas allumés. Oui, ils ne devaient pas être allumés parce qu'ils ne maîtrisent rien du code de la route. C'est vrai qu'ils sont allés, ils ont le permis, tout ça, régulièrement le permis. Ils ont eu la chance d'avoir le permis, mais ils ne maîtrisent pas le code. Il semble qu'aussitôt, après avoir pris le permis, ils oublient tout ce qu'ils ont appris au niveau de comment vous appelez, des auto-écoles. Parce que leur problème, c'est les 500 francs, les 300 francs qu'il faut chercher depuis Zangera à Sigamé, d'Ajidogome à Sigamé, d'Agoya à Sigamé. Et il faut faire au moins 4-5 tours avant que la nuit ne tombe. Est-ce que vous me suivez, monsieur ici? La deuxième vague, c'est les gros porteurs, les titans, les camions de transport de sable, les camions de transport de marchandises. Il y a des voies même qu'il faut interdire à ces gros porteurs-là. Je suis sérieux. Le ministère de la Sécurité, le ministère des Transports routiers, la direction des Transports routiers, tout ce monde-là, la DSR, ils sont là. Ils font ce qu'ils peuvent. C'est vrai qu'il y a de l'insuffisance, des fois, au niveau de certains agents de sécurité qui devraient arrêter certains gros porteurs à un moment donné, à une certaine heure. Parce qu'on a toujours dit que ces gros porteurs-là, il faut les interdire certaines heures de pointe. J'ai l'impression que même si le frein marche, ils peuvent foncer sur vous. Ça s'est passé l'année dernière, ça s'est passé à Onyame. La dame est décédée comme ça. Il y a des klaxons qu'ils font pour justement pour effrayer. Il faut klaxonner, mais savoir klaxonner pour ne pas apeurer, pour ne pas traumatiser celui qui est devant. Ils le font et ils s'en foutent. Et c'est des gens...
Mais quand on parle du klaxon même, le klaxon a un rôle bien précis.
Le klaxon a un rôle précis, mais qui est réglementé. Vous n'allez pas au Burkina Faso, ici à côté. Je ne parle pas de la France, de la Suisse, ni de l'Allemagne. Là-bas, c'est autre chose. Hein. Vous klaxonnez comme ça, vous êtes amendé. On peut même vous enfermer pour ça. Au Burkina Faso, ici à côté, le klaxonner est réglementé, est encadré. Parce que le bruit tue. C'est vrai, vous savez ça. Le bruit même, ça tue. C'est ça qui a tué la dame là, la dernière fois. Là, la panique a tué la dame, mais le bruit même sur le cerveau tue. Il y en a qui ne supportent pas le bruit. Simple klaxon, ils sont désemparés. Et donc, le message là que nous envoyons, il y a plein de messages que nous envoyons dans le journal, soit c'est le respect des feux tricolores, ou soit c'est éviter de dégrader la route, parce qu'il y en a aussi ces indélicats-là qui se permettent de transporter des trucs durs pour dégrader la route. Alors que cette route dégradée, ça fera au moins 10 ans avant qu'on ne vienne réparer. Et quand ça dégrade à un endroit donné, ça affecte les autres. Et, comment on dit ça? C'est comme une plaie. Si on ne la pense pas,
ça s'étend.
Ouais. Ça s'étend et ça devient un trou béat. Et c'est ça qui détruit la chaussée. On a mis du temps à mettre parce que 25 ans, les gens ont cherché la route. On vous met maintenant, on vous construit maintenant la route. Vous êtes prêts à le dégrader pour vos intérêts à cause de 1000 francs, de 200 ou de 2000 francs. D'accord. C'est pas normal.
D'accord, c'est pas normal. Ça se comprend et Ambroise. Oui, Elom, c'est vrai que le message que Ambroise délivre hein, déjà à travers cet écrit ou cet article, c'est très important. Mais le souci aujourd'hui, c'est que il y a des gens qui empruntent même d'ailleurs les passages cloutés et quand ils empruntent, ils mettent même d'ailleurs leurs pieds sur ce passage clouté. Il y a des motocyclistes qui foncent également sur eux. Vous allez vous demander, mais on est où là?
Oui, ça c'est une évidence. Quand vous voyez quelqu'un qui marche au Togo sur le passage clouté, vous comprenez que voilà, on n'a aucune envie de respecter son passage. C'est-à-dire on klaxonne pour qu'il puisse passer. On dit mais lui là, mais attendez, vous êtes fou, vous n'êtes pas normal. Alors que ben normalement, c'est au conducteur de s'arrêter, de laisser le piéton passer. Et ici c'est le contraire. C'est-à-dire, si vous voulez, si vous avez un permis dans un autre pays, vous arrivez ici, vous voyez quelqu'un qui marche le passage clouté, vous allez voir des gens qui klaxonnent. Comme Ambroise l'a dit, le klaxon, l'usage du klaxon est réglementé. Vous ne pouvez pas utiliser le klaxon pour chercher des passagers. Ici, c'est la mode. Et vous, au niveau de Toko Hôpital, vous regardez, vous montez un peu sur la colline, vous allez voir des voitures qui ne font que klaxonner. Mais attendez, vous êtes à côté d'un hôpital. On ne fait que klaxonner, klaxon, pipi, 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 pipi. Là-bas, c'est le concert des klaxons. Vous allez à Gbalepédo, la gare routière. Les gens quittent les minibus qui sortent de la gare, qui tombent sur les pavés, qui ne font que klaxonner. Quand vous reprenez le rond-point en allant vers, sur la nationale numéro 1, en allant vers Agouin, klaxon, klaxon. Et puis vous avez, mais tout ça, vous savez, c'est pas bon pour la santé. Les gens pensent que c'est juste pour choper un microbe, un virus ou bien un parasite qui constitue. Non, mais tomber malade. Mais le bruit, ça affecte beaucoup de choses. Ça affecte l'être humain.
Les nerfs.
La santé mentale. Hein, le stress, tout ça. Parce que vous ne pouvez pas supporter le klaxon. Vous allez voir les gens, même à 20h, 19h, 20h, ils continuent de klaxonner. 21h, continuent de klaxonner. On n'utilise pas.
À 23h, ils continuent de klaxonner.
Bon.
Et le mal, c'est que des fois, des klaxons devant soit des écoles ou devant les hôpitaux.
Les klaxons, et maintenant, la vitesse, comme Ambroise l'a dit, les gens sont dans l'excès aujourd'hui. Les gens ne respectent rien, ils regardent le panneau comme ça, mais ils foncent. Il n'y a pas de souci. Et à part ça, il y a les phares. Mais on se demande même où est-ce que les gens mettent leurs phares. Mais monsieur, si vous n'avez pas une bonne vision, ou bien vous ne voyez pas bien, ce n'est pas la peine de mettre des projecteurs comme phares.
C'est ça, c'est notre cas. Hein.
Oui, mais vous ne pouvez pas mettre des projecteurs comme ça. Je ne sais pas. Mais auparavant, on faisait la campagne de réglage des phares au niveau du palais des congrès.
Le gars est décédé.
Mais il faut que ça continue.
Le président de l'association, il s'appelle comment?
Winter Pego.
Non, pas Pego.
Qui ça?
Lui, c'est un grand frère. Il est âgé. C'est lui qui a créé l'association Prévention Routière quelque chose.
Prévention Routière, oui. Là, je pense que c'est Clovis Niaoui.
Non.
Clovis Niaoui, lui, il est là.
Il y avait un joint. C'est lui qui a commencé depuis.
Okay. Ah, d'accord, il y avait un joint.
Oui, il y avait un joint. C'est lui qui a commencé. Et puis, à son ami, il est décédé. Il s'est pris en lui de faire ça.
Et ça continue.
Ça continue.
Oui, la campagne continue.
Ça continue.
La campagne continue. Mais les gens ont des voitures. Hein, la nuit, c'est des projecteurs qu'ils ont au lieu des phares. Non, je vous jure.
Oui, il ne ment pas.
Mais ça dit que la voiture, mais les gars, ils mettent les projecteurs sur vous. C'est pas des phares.
Et ça éblouit complètement, hein. Ça crée des accidents, hein.
Mais si vous ne voyez pas la nuit, mais ne prenez pas le volant. Mais prenez le volant de jour, la nuit reposez-vous. Mais laissez les gens qui regardent mieux la nuit conduire. au lieu de mettre des projecteurs pour que vous puissiez voir ce qui se passe à 100 mètres. Non, mais les usagers qui partagent la même voie que vous ont aussi besoin d'être, voilà, de rouler en sécurité. Mais ça, c'est un autre cas. Il faut que la direction des transports routiers voie ce problème-là. La campagne de réglage des phares. Les gens n'ont plus de phares, ils ont des projecteurs sur leurs voitures. Et c'est grave.
D'accord.
Et je vais prendre un autre point.
Oui, rapidement.
La route aujourd'hui, quand vous circulez à Lomé, vous avez des gens qui prennent le vilain plaisir, excusez-moi, en pleine capitale, en pleine route, d'ouvrir leur fermeture et de pisser.
Ça, c'est un autre cas.
En pleine route comme ça. Parce que la personne a vu un égout bien, des rigoles, et en plein marché, en pleine chaussée, la personne ouvre la fermeture et se met à uriner.
Capitale.
Et puis, il y a des femmes qui ont commencé ça. Mais c'est pas sérieux. À un moment donné, je veux que la police ne peut pas tout faire, hein, mais il faut que nous, même, on soit responsables. Quelle image on donne? Un papa qui vient en pleine chaussée comme ça, ouvre sa fermeture, commence à pisser. Mais ça répond à quoi? Une maman qui sort, qui vient en pleine rue, en pleine chaussée, et quand les gens commencent à pisser. Parce qu'il y a des rigoles là-bas. Et vous voyez ce truc-là un peu partout à Lomé maintenant. Franchement, ce n'est pas bien. Mais ce truc, ce n'est pas bien du tout. Par rapport aux mœurs, ce n'est pas bien. On est en Afrique. Mais ici, les mairies, c'est vrai qu'elles sont débordées, on comprend. Mais il faut trouver une solution à ça. S'il faut sensibiliser. Si on doit mettre des affiches de sensibilisation, mais on le fait. Parce que les gens ne peuvent pas prendre le vilain plaisir d'ouvrir leur fermeture en pleine chaussée, d'uriner comme ils veulent. Non, ce n'est pas bien. Non, on en rit, mais c'est sérieux.
D'accord. Okay. Le joint
de j'ai voulu juste ajouter. Les gens viennent de m'envoyer, les Togolais le connaissent, de m'envoyer le nom de M. Adama Tassa.
Oui, Adama Tassa.
C'est le joint de la prévention routière.
M. Adama Tassa.
Oui, il a, pendant des dizaines d'années, moi, c'est son nom que j'entends souvent. Et c'est le joint, donc il est décédé, je crois, il y a quelques années, paix à son âme. Je voudrais juste tuer, comme il a dit, il y a de ça, c'est l'ignorance, ou c'est le copétor, je ne sais même pas comment dire ça. C'est-à-dire que l'incivisme, ça c'est l'incivisme, une autre forme d'incivisme qui passe par là. Tu ouvres la fermeture, et bah, comme ça. Bizarrement, moi je suis un homme, mais moi si je veux même uriner, je n'aime pas uriner en public, je ne sais pas pourquoi. C'est-à-dire que je prends une femme, les femmes n'ont qu'à m'excuser parce qu'elles autres, elles ont leur format. Mais moi, quand je vais venir là, je fais tout pour être à l'abri des regards. Maintenant, j'insiste sur le volet respect de la vitesse. J'insiste, je prends juste le cas de Casablanca, quoi. Vous savez, c'est quand vous quittez Atikoumé, vous allez voir que la voie, elle est longue, mais elle est vraiment linéaire, elle est très distante. Ça descend. Qu'est-ce que les gens font? Les gens filent. Ils voient le tableau. Quelqu'un vient de m'écrire que... Est-ce que tu es sûr que les gens connaissent même ce tableau-là? Est-ce qu'ils maîtrisent ça? C'est ce que j'ai dit au départ. Que certains sont venus directement à Lomé. Leur problème, c'est de conduire. Ils sont allés à l'Ouvrance. Ils sont allés à... Comment on dit ça? À prendre le code de la route. Ils ont tout fait. Ils ont prié pour avoir le permis. Et après, ça s'arrête là. Quand ils rentrent dans leur véhicule, c'est autre chose. Parce qu'ils cherchent l'argent. Ça, c'est les conducteurs qui cherchent de l'argent. Ça, c'est ceux qui sont dans les taxis et autres. Maintenant, quand vous descendez aussi l'hôpital, c'est vrai que c'est la descente. Vous allez voir comment les gens filent. Et donc, les gens, à part des cons, où tu es obligé de ralentir, les gens sont obligés de respecter. Ils sont obligés de respecter, comment on dit ça, l'arrêté du ministère des Transports et de la Sécurité qui limite la vitesse.
D'accord.
C'est sérieux.
D'accord.
C'est sérieux.
Oui, mais l'homme, c'est vrai que quand vous parliez tout de suite, vous évoquez cette question d'incivisme, vous avez interpellé même d'ailleurs les maires pour cela.
Oui.
Et dans votre journal, ce matin, vous vous intéressez également à l'environnement.
Oui.
L'environnement, et c'est avec surtout le général Bérénin, qui est le Bérénin Nyakoudé, qui est le directeur général de l'ANASAP. Et vous citez ces propos à la une alors du journal, et vous écrivez: l'ANASAP ne vient qu'en appui aux communes. Mais quand on regarde les communes aujourd'hui, telles que l'ANASAP faisait même d'ailleurs son travail dans la capitale, est-ce que cet appui aux communes, est-ce que ça se ressent toujours?
Oui, mais c'est pour ça que justement cette interview vient à point nommé. Vous savez, avant que les communes ne soient installées, l'ANASAP faisait quand même du boulot, un boulot remarquable. On voyait tous dans la capitale. À un moment donné, bon, c'est vrai, on ne voit plus la NASAP comme on la voyait. En lieu, place, comme il y a les maires qui sont là, chaque maire est responsable de l'assainissement, de la protection de l'environnement de son territoire. Et Ambroise, il est environnementaliste. Et nous, on s'essaie à l'environnement. Et donc, dans chaque commune, vous avez quand même une certaine dérogation qui est accordée aux maires pour gérer l'espace urbain et tout. Mais on s'est rendu compte très tôt que oui, voilà, la NASAP va intervenir maintenant en soupape aux communes. C'est-à-dire que si les mairies finissent de collecter les ordures ménagères, ils font le convoiement de ces ordures ménagères vers les lieux qu'on appelle les centres de transit. Et la NASAP se charge maintenant de venir chercher les ordures dans ces centres de transit pour le centre d'enfouissement, pour la décharge finale.
Au niveau d'AKP.
Au niveau d'AKP. Mais on s'est rendu très vite compte que, mais pour, au lieu que les communes ou les maires travaillent, ils sont là à se tirailler sur les marchés. Qui va prendre le marché dans les mois d'ordures? Qui va prendre tel marché dans les... Pendant 6 ans, on est dans la 6e année. C'est tout ce que les mairies font. Mais vous ne voyez pas? Les gens souffrent. Les ordures dorment dans les maisons des gens. Les ordures sont en train de dormir dans les maisons des gens. Les bonnes volontés, les jeunes qui aidaient les ménages avec les tricycles, qui les débarrassaient des ordures ménagères, on leur a interdit l'accès. On dit maintenant là, c'est telle société qui doit gérer l'enlèvement des ordures. Et dans toutes les communes, c'est le problème. Conséquence, on a un gros problème d'assainissement et d'environnement. Parce qu'il y a des mairies qui ont refusé que bon, tel marché, c'est tel qui va prendre. C'est tel qui va prendre. Parce que les gens ont des intérêts particuliers en donnant tel marché à tel. Et donc, ça fait que on a réduit justement, on a réduit l'efficacité même du travail d'assainissement. Et aujourd'hui, tout le monde fait le procès à la NASAP en disant oui, à la NASAP, qu'est-ce qu'ils foutent maintenant, on ne voit plus. Mais voilà, la loi est là. La loi dit que la responsabilité de l'assainissement et de la protection de l'environnement incombe aux communes. C'est ça la décentralisation. Et maintenant, la NASAP vient en appui au travail des communes. Quand vous avez regardé, par exemple, le nouveau classement de Jeune Afrique Intelligente sur les villes les plus propres en Afrique, Cotonou est en haut du classement. Cotonou, Lomé, Cotonou, avant, il n'y avait pas comparaison. Aujourd'hui, quand vous regardez Cotonou en matière d'environnement, d'assainissement, c'est nickel. Mais comment eux, ils font? Comment est-ce qu'ils font, eux, chez eux?
Ils sont dans la décentralisation aussi.
Oui, effectivement, c'est ce que je dis. Si on doit aller à leur école, envoyer une mission là-bas pour dire, bon, gars, comment vous faites l'assainissement et la protection de l'environnement? Ici, c'est la bagarre autour des marchés. C'est la bagarre. C'est telle société qui doit prendre. Parce que, bon, la société a de gros camions. Si vous fouillez bien, c'est la société du maire. C'est la société du petit frère du maire. C'est la société de la petite soeur du maire. C'est la société du grand frère du maire. Il faut arrêter ça. Soit on veut construire, soit on veut faire ce qu'on appelle l'assainissement, la protection de l'environnement, soit on ne veut pas le faire. Mais regardez nos rues. Regardez la capitale. Regardez nos quartiers. Je vais vous demander un exercice. Donnez-moi, les auditeurs aussi m'écoutent, qu'on me dise aujourd'hui, au niveau du Grand Lomé seulement, parmi les 13 communes, quelle est la commune la plus propre? Un exercice simple. De Golf 1 à Golf 7, et d'Aguanivé 1 à Aguanivé 5. Ou à Guenivé 6, voilà, Guenivé 6. Quelle est la commune la plus propre? Peut-être qu'Ambroise va me donner une idée de la commune la plus propre. Parce que nous, on circule, hein, dans tous les quartiers, dans toutes les rues. Tout le monde circule. Donnez-moi une idée de la commune que vous trouvez la plus propre en 6 ans que les maires ont. Quelle est la commune la plus propre aujourd'hui? Arrêtez-vous à donner une... Vous n'en trouverez pas. Chaque commune a ses défis. En 6 ans, on n'a jamais réussi à relever le défi de l'assainissement et de la protection de l'environnement. Les ordures dorment dans les maisons des gens en 6 ans. Vous êtes lundi, la société passe chaque semaine. Normalement, c'était 2-3 fois, on va vous dire 2-3 fois dans la semaine. Mais vous vous rendez compte que c'est une fois seulement que la société passe et ça fait peut-être 2 semaines après que la société repasse. Pourtant, vous payez. On vous dit que c'est la société qui a les gros camions, qui a les moyens, les matériels techniques qu'il faut, nanani, nanana. Voilà, c'est eux qui sont habilités à faire ceci, tout ça. Nos communes sont sales. C'est pas qu'on a honte de le dire, c'est vrai, c'est une réalité. Mais qui va régler le problème? Regardez juste Badago ici. On est dans quelle commune? Golf 4. Regardez les autres communes. Allez, circulez. Donnez-nous une idée de la commune la plus propre.
D'accord. Le sujet que l'homme est très important. Oui, c'est vrai qu'avant la décentralisation, il y a la NASAP qui s'occupait de l'assainissement de la ville et de la protection de l'environnement. Mais finalement, la décentralisation qui est censée régler ce problème n'arrive pas à le faire. Là, on se poserait la question de savoir, c'est la faute à qui?
Oui, c'est la faute au gouvernement. C'est la faute au gouvernement, tout simplement parce que quand vous voulez faire la décentralisation, il faut la faire dans toute son entièreté. Il faut la faire dans le respect des lois que vous avez copiées à l'extérieur. Vous me suivez. Et je crois que c'est la décentralisation lancée par Mitterrand en 82 que le Togo aussi a adhéré. Et si vous voulez adhérer à quelque chose, il faut le copier dans toute son entièreté. Personne n'a émietté les mairies en France. Personne n'a fractionné les territoires au Sénégal, encore moins au Bénin à côté. Pourquoi nous copions ce qui est bien et on essaie de copier tout ce qui est mauvais ou ce qui nous arrange politiquement? La décentralisation, c'est vrai que ça, c'est une initiative transversale, mais ça doit être moins politique parce que ça touche le citoyen à la base. Ça touche la communauté à la base. C'est eux qui doivent construire leur communauté. C'est-à-dire, la responsabilité de construction, de développement de cette communauté incombe aux citoyens à la base. Et donc, si t'en es ainsi, le pouvoir ne doit pas trop s'en mêler. Le politique ne doit pas trop s'en mêler. Émiettez les communautés, vous émiettez les territoires. Simple, le petit nommé là, le petit nommé qu'on a là, c'est en sept territoires. Et on crée encore un autre à Agoué. Moi, j'ai dit, il faut dissoudre tout ça. Je le dis ce matin encore au gouvernement de M. Fonia Singbe de dissoudre tout ça là. Nous adhérons à l'initiative de la décentralisation. Parce que le Togo n'est pas le seul pays à le faire. Maintenant, si vous voulez le faire, faites-le bien. Il ne faut pas le faire parce que ça vous profite. Non. Lomé, la commune de Lomé, commune de Cotonou, commune de Paris, c'est ça. Est-ce que je mens? Commune de Dakar, c'est ça.
Mais nous avons un modèle.
C'est ça le modèle.
On,
c'est
on parle plutôt alors de...
C'est vous qui avez trouvé le modèle
de l'Allemagne.
Oh, tu sais, il faut me réveiller ce matin. Parce que...
Tu dors.
Je suis toujours dans mon état. Je vais rester dans mon état habituel. Là, tu es en train de me réveiller. Parce que si tu parles de modèles là, c'est ici, on nous a toujours présenté des modèles. Je vais te donner des exemples, des modèles de développement. Il y a le PS et le DSR. Il y a le SCAP. Il y a quoi encore? Le PND. Est-ce que ces modèles là sont toujours là? Et c'est des modèles qui sont copiés ailleurs. On ne refuse pas. Mais pourquoi on quitte modèle à modèle? Ça ne marche pas. On n'associe pas le citoyen. Tout ce que vous faites sans moi et pour moi, ça ne marchera pas. Je dis bien qu'il faut dissoudre ces territoires. Revenons à la question. Et l'on m'a dit, il a interrogé le monsieur...
Le général Bérina.
Si je voudrais rentrer dans ce débat, c'est parce que lui aussi, il est fatigué d'être accusé de prendre ce qui est du ressort ou du regard de mairie. Moi, je n'accuse pas Bérina. On lui a demandé de le faire. On a créé une structure pour encore foutre du bordel dans le nez, dans le travail des communes. Ils ont préféré aussi laisser. Nous sommes élus et nous devons travailler pour notre communauté. Maintenant, vous créez une structure parallèle pour faire le travail que nous faisons. Comment on peut gérer ça? Le DAGL. Celle qui est ici là, c'est-à-dire que
le district autonome du Grand Lomé.
Ça, c'est un cinéma. C'est ça même, j'appelle le gros cinéma. Ça n'a pas sa place. Tout simplement, tout ce qu'il faut faire pour contrôler le marché, à Dawato, c'est-à-dire que il faut même l'EPAM là. Il y a trop de trufferies dans cette EPAM là. C'est-à-dire que la mairie revient au Golfe 4. Tout le marché là, tous les marchés devaient revenir à la commune de Lomé. Maintenant, ils ont retiré tout ça là. Parce que l'argent, ça va gêner beaucoup d'argent pour l'opposition qui peut gagner les élections. Tu sais, ils mêlent tout à la politique. Donc les mairies sont mécontents d'avoir retiré leurs prérogatives pour donner à Anadan Deb. Ce n'est pas Bérénan. Bérénan n'est pas, ne s'est pas nommé lui-même. C'est le président qui l'a nommé. Et donc Bérénan a bien lu ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'on l'accuse de rien, mais alors qu'il n'en est pour rien, parce que lui aussi il a été nommé.
D'accord.
Okay. Et donc, la solution, c'est de dissoudre toutes ces communes-là, de ramener notre commune de Lomé. D'accord. Et que de créer des arrondissements.
D'accord. Ouais. Nous sommes rejoints par Magloire Kinviteko. Magloire, bonjour.
Bonjour, Pascal.
J'espère que tu vas bien.
Mais ça va pas, la grâce de Dieu.
Dieu merci. Nous sommes dans l'environnement surtout dans la capitale, et l'assainissement et la protection de l'environnement, bien sûr, avec cette interview accordée au journal La Nouvelle Tribune par le général Bérénan Nyakoudé. Alors, c'est vrai, avec cette question de la de l'assainissement aujourd'hui, on comprend que avant la décentralisation, tout était plus mieux. Et donc, allons-nous préférer plutôt alors retourner alors au temps d'avant la décentralisation?
Ben, est-ce qu'il faudrait encore retourner en arrière? Je dirais non. Mais toujours est-il que ce que nous avons à faire, tâchons-nous de bien le faire. C'est tout simplement ça. La décentralisation n'est pas une émanation togolaise. Mais si tant est qu'on veut se lancer ou s'inscrire dans une dynamique communautaire ou internationale, mais faisons-le bien. Et je crois que tout à l'heure, Ambroise évoquait un cas, et nous l'avions dit ici dès le début, mais épouser la décentralisation comme on l'a pensé, parce que n'oublions pas, depuis 1989, si j'ai bonne mémoire, il était plutôt question ici les mairies à l'ancienne, c'est-à-dire délégation spéciale.
Voilà.
Et donc, à un moment donné, on a estimé qu'il était important de rompre avec cette dynamique qui ne concorde plus avec les réalités d'aujourd'hui. C'est une très bonne chose. Mais alors, si on veut épouser la nouvelle dynamique, faisons-le comme on le fait un peu partout. C'est vrai que chaque pays a ses réalités. Mais quand vous voyez un peu dans la sous-région, dans les pays où la décentralisation est un peu quand même avancée, on vous parlera du Sénégal, on vous parlera du Bénin. Mais la réalité aussi, c'est que quand vous allez au Sénégal, Dakar, c'est une seule commune. C'est pour ça justement que vous allez voir que les maires de ces capitales sont des maires puissants et constituent un peu un contre-pouvoir, un régulateur, exactement.
Ça.
Mais le problème, c'est que chez nous, ce n'est pas qu'on ne le sait pas, mais la vraie réalité, c'est qu'on veut politiser à outrance.
C'est ça.
Les choses, tout ce qui est développement participatif. Alors qu'en réalité, quand on parle de décentralisation, c'est que ça part de la population vers le haut en réalité.
C'est ça.
C'est tout le contraire du pouvoir central. C'est-à-dire, au haut, il y a le chef de l'État qui a sa vision, sa politique. Et lorsqu'on le nomme, enfin, lorsqu'on fait l'élection et on désigne quelqu'un, il nomme son gouvernement, ainsi de suite, par rapport à sa vision, il établit une feuille de route, un cahier de charge pour chaque ministère, ainsi de suite. Mais la décentralisation, c'est que la réalité, c'est la population là-bas qui porte le pouvoir. Mais si tel est le cas, restons dans cette dynamique. Aujourd'hui, peut-être on ne veut pas voir un maire puissant ici à Lomé pour jouer vraiment un contre-pouvoir au pouvoir qui est là. C'est ça qui a amené à diviser, à émietter les mairies d'aujourd'hui. Et vous allez voir, on parle de Anasap,
bien sûr.
Et le colonel se dit, peut-être...
Général.
Le général. Autant pour moi, général, je suis au cadre d'avoue. Mais la réalité, c'est qu'il est aussi un peu victime, n'est-ce pas, d'un système qui a été préétabli. Il n'y a pas que lui. Au niveau des mairies, par exemple, vous vous rappelez qu'il y a 2 ans ou 3 ans, il y avait eu une certaine forme de mécontentement au niveau des mairies parce que les fonds qui devraient revenir aux mairies pour la gestion de leur territoire, on a chapeauté ces mairies-là par ANADEB, vous vous rappelez? Et ça a créé des problèmes, c'est-à-dire que ANADEB joue un peu, c'est lui qui détient les fonds, vous faites vos dépenses et tout, vous tendez les papiers et c'est ANADEB qui gère. Mais pourquoi? Est-ce que c'est comme ça se fait aussi à Dakar? À côté de nous, c'est comme ça se fait. Et donc, moi, j'estime que c'est pas le modèle qui pose problème. Mais sauf que, lorsqu'on veut mettre la politique au centre de tout, c'est ça qui fait qu'à la fin, le modèle recherché n'a pas son efficacité.
D'accord.
Mais la réalité aussi est que la vraie évidence, c'est nous, les hommes, qui constituons le problème. Parce que quand vous évoquez, par exemple, le modèle d'Agle, district autonome de Lomé, c'est un modèle ivoirien. C'est un modèle ivoirien. Mais allons nous demander, mais pourquoi à Abidjan, Cocody, ou je ne sais pas, les quartiers à Abidjan sont propres? Parce qu'à un moment donné, même si on sait qu'il y a un relent de politique là-dedans, mais les gens ont quand même la latitude de gérer au mieux tout ce qu'il y a comme fonds affectés à chaque mairie. Et à la fin, quand vous faites bien, on va vous voter encore pour les prochaines fois.
D'accord.
Mais ce n'est pas tout ça qu'on observe chez nous ici. C'est ça le problème.
Merci beaucoup, ma gloire. On va quitter le sujet.
Tu sais, c'est un bon sujet que tu as. ça intéresse les gens. Hein.
Justement.
Monsieur m'a appelé un jour. Il dit, mais c'est vrai que j'ai fait un mémoire sur le sujet. Il me dit, ce qui l'intéresse, là, quand je frappe sur l'émiettement, là, tout ça là. Ah, il est très content. Et c'est un docteur qui m'appelle. Je vous dis que moi, dans mon mémoire, le balbutiement qu'on constate, c'est ma deuxième, la deuxième partie de ma mémoire, je l'ai relevé, l'intrusion du ministre dans les ressources territoriales, la gestion même des fonds, la gestion des communes, tout ce qui doit aller ne va pas, je l'ai relevé.
C'est-à-dire les manquements dans la décentralisation.
Tous les manquements, je les ai relevés. Et nous constatons que si décentralisation ça devait marcher, il faut revenir au territoire ancien. Il faut une seule commune pour Lomé, pour Atapamé, pour Kara, pour Sokoli. Il a dit quelque chose, je l'ai dit au départ, c'est la politique, c'est l'intrusion, comment on dit ça? C'est l'intrusion intempestive de la politique. Et c'est le ministre de l'administration intérieure, surtout au temps de Bokassi. Ah, lui, il a gâché tout ce qui est décentralisation au Togo. Ce n'est pas ça. Ce qu'il faut aujourd'hui là, ce n'est pas ça la décentralisation.
D'accord.
Et les maires qui sont là, quand le maire est uni, il se plie. Au lieu de se révolter ou au lieu de revendiquer, il est comme ça. C'est pourquoi ils ont tout fait pour placer le maire. Je dis, il faut dissocier ce qui est décentralisation de la politique politicienne.
D'accord.
Okay, la décentralisation, c'est les citoyens.
D'accord, merci. Je reste toujours avec vous, la Nouvelle Tribune. et vous parlez des banques qui ont des crises au sein, en leur sein, j'allais dire. Et vous écrivez Togo Bank, Ora Bank et Suno Bank habitées par la crise. Et là, quand on lit même les articles, on comprend qu'il y a certaines agences même de ces banques qui ferment déjà leurs portes.
Oui, vous savez, c'est actuellement les banques, il y a des banques qui ne se portent pas bien. Il faut, c'est un secret de polichinelle. Il y a beaucoup de choses qui ne se disent pas, mais sincèrement, il y a des choses qui ne vont pas bien dans certaines banques. Quand vous prenez, par exemple, depuis la fin d'année dernière, vous savez tout ce qui s'est passé avec Sunu et tout ça. Le problème, c'est que quand vous écrivez et que vous relevez une irrégularité dans une banque, les gens s'affolent, les gens tombent en transe, les gens vous appellent, les gens font comme si, bon, voilà, le ciel est tombé sur leur tête. Mais pourquoi les gens... Mais on comprend pas. Mais la presse est là pour ça. Je suis désolé, mais la presse est là pour ça. Mais du moment où il y a des anomalies, on avait écrit sur Sunu en disant oui, Sunu Bank, il y avait des bizarreries qui s'y passaient dans cette banque. Les gens ont dit non, que ceci. Mais quelques jours après, le personnel a déposé un préavis de grève. C'est moi qui ai écrit le préavis de grève. C'est moi qui ai écrit le préavis.
C'est ton sosie.
C'est eux-mêmes qui ont déposé le préavis. C'est moi qui ai écrit. Ok. Le préavis a été déposé pour le 30-31 décembre 2024. Bon, ils ont pu discuter, ils ont trouvé une solution. Je ne sais pas si les problèmes sont réglés et on est tombé dans la nouvelle année. Entre temps, Ora Bank aussi a déposé un préavis de grève sur le 31 décembre 2024. Leurs revendications portaient sur l'AMU, l'assurance maladie universelle. On est rentré dans la nouvelle année. Quand on est rentré dans la nouvelle année, voilà les deux banques qui se comportent aujourd'hui comme des sœurs jumelles alors qu'elles n'ont rien de commun, ni même père, ni même mère. C'est des banques vraiment indépendantes l'une de l'autre, mais qui se comportent ces temps-ci comme si elles étaient affectées par le même problème, comme si elles souffraient du même symptôme, tu vous comprenez? Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On a fini l'époque des grèves. On a mis ça en parenthèse au niveau du personnel des deux banques. On est rentré dans la nouvelle année. On a commencé avec une grosse panne informatique au niveau de la banque. En une journée, 24 heures, toutes les opérations sont paralysées par une grosse panne informatique sans information de la clientèle. Je suis franc. Il n'y a pas eu un seul communiqué même pour présenter des excuses à la clientèle. On a vu ça.
Aucun message.
On a vu ça nulle part. Mais il y avait une grosse panne informatique quand même. Mais non, après, on en est là. Et puis, subitement, il y a des notes qui sortent que quoi, comme quoi on ferme des agences. On ferme l'agence de Kanté, on ferme l'agence du rond-point aéroport, on ferme l'agence de la rue du commerce. Trois agences fermées. Et voilà, ça c'est Ora Bank. Et au niveau de Sunu Bank, on ferme 7 agences. Ça fait 2 banques qui ferment 10 agences sur tout le temps du territoire. Un peu partout, quoi. Et voilà, on sort une note, on explique à la clientèle que voilà, et on ferme des agences. Bon, il y a l'une des banquiers sous nous qui dit que bon, c'est pour optimiser les ressources, c'est pour faire ceci, c'est pour faire cela. Mais on est en déliquescence au niveau des banques. On a su en matière de situation financière, il y a beaucoup de choses à revoir au niveau de ces banques. C'est des banques privées, enfin, sous nous c'est privé. Ou la banque, au moins, il y a une part de l'État, il y a l'autre avec j'oublie l'actionnaire, je pense. Je vais revenir là-dessus, mais on sait que Vista avait tenté de racheter la banque, le dossier n'est pas encore clos, c'est sur la table de la commission bancaire. Donc on ne peut pas aujourd'hui, voilà, se taire sur des anomalies du genre. C'est vrai que bon, une banque qui ferme une agence, on va vous dire que bon, c'est pas encore grave, hein, Mais une banque qui ferme 7 agences, il y a un problème.
D'accord. Il y a un problème vraiment. Alors, oui, mais Ambrose, quand on arrive à une étape où déjà une banque ferme justement 7 agences, ben là, on doit s'inquiéter.
Oui, les banques ne méritent que ce qu'ils sont en train de souffrir actuellement. Hein. Vous savez, moi, ça fait longtemps, ça fait 8 ans, je ne suis plus dans aucune banque. Je préfère la FUSEC ou
la microfinance.
Oui, parce que tel que ça est, je sais que la FUSEC ne va pas trop me créer des problèmes parce que il faut comment dire ça. Même simple carte que tu as fait là, si la carte a des problèmes, il faut écrire un courrier. Je ne vais pas citer la banque. Des opérations que tu fais, faut peut-être commencer quelque chose. Parce que toi, tu sues avant de trouver 200 000, 100 000 francs. Tu as commencé, tu as trouvé un repère de tête, tu fais quelque chose. Quand tu fais l'opération, tu constates qu'il y a des prélèvements qui se font dans ton compte. Et quand tu veux savoir, tu veux réclamer, tu dois écrire une lettre. Et cette lettre-là peut traîner là-bas 3 mois. Donc moi, j'ai fait l'expérience une fois, deux fois, trois fois. Il y en a aussi certains amis. Ça, c'est juste un côté qui n'arrange pas les banques. L'autre côté, c'est le fait d'avoir déposé, tu veux aller déposer 5 millions à la banque. Rapidement, on prend ces 5 millions-là. Tu ne vas même pas traîner. Mais va chercher 2 millions de ces 5 millions-là. Va faire la queue. Tu verras, 4 heures de temps là-bas, on va faire 10 000 téléphones. On va appeler le président de la République, le premier ministre. On va appeler le président, de la Corée du Nord. C'est juste une métaphore pour te prouver la souffrance que tu dois faire pour pouvoir avoir ton argent que tu as déposé. Donc, avec ça, là, quand tu vas à la FUSEC, tu n'as pas ça là-bas. Ça, tu ne peux pas avoir ça. C'est pour dire qu'en réalité, les microfinances, peut-être, et les mesos sont mieux que les banques. Vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici. Mais les banques sont aussi importantes pour dans un pays. Sauf que c'est eux qui ne managent pas bien. Il y a un ami qui est en France qui a voulu faire, elle peut se rappeler, qui a voulu faire un dépôt de quelque chose comme ça ici. On lui a traîné toute une journée. Je ne sais pas s'il a voulu ouvrir un compte, quelque chose comme ça. On lui a traîné toute une journée. C'est-à-dire qu'il veut avoir un compte pour pouvoir envoyer de l'argent. On lui a créé tout. Je ne sais pas si c'est la directive qui dit que quand vous venez déposer l'argent à la banque, vous devez, ou à une microfinance, vous devez préciser la destination, l'origine des fonds, tout ça là. Ce n'est pas ça qui oblige les banques à faire ça. Ça va faire fuir les clients. Et je suis désolé, les gens préféreraient garder l'argent dans un trou chez eux à la maison. pas dans le tiroir, pas dans le.
Oui, mais c'est pas un truc à faire.
C'est
pas un conseil. Oui.
Non, on ne conseille pas.
Oui.
La dame, il y a une dame qui est décédée comme ça. On veut faire les funérailles. Donc, on veut installer les appartements. On creuse, on trouve 1 million. Emballé dans des sachets de pioche, le gros là. Emballé là-bas. T'as la dame, d'abord, elle ne veut pas déposer son argent. La preuve, les marchés qui ont brûlé là. Beaucoup de femmes ont leur argent là-bas, au lieu d'en être à la banque. Il y en a qui déposent à la banque, c'est bien. Parce que l'argent là est sécurisé.
Est sécurisé, c'est ça.
Mais, il ne faut pas toujours jeter le pauvre sur celui qui ne veut pas faire suivre la règle. C'est parce qu'il y a un problème au niveau de la règle que certains ne veulent pas suivre. Pourquoi certains préfèrent déposer leur argent à la maison, même s'ils sentent qu'il peut y avoir des voleurs à tout moment? C'est parce qu'il y a un problème au niveau des banques. Donc, moi, je souhaiterais que les banques vivent. Je souhaiterais qu'on ait des banques dynamiques. Je souhaiterais que les banques, on ait des banques qui ne ferment pas. Mais je souhaiterais qu'il y ait des banques qui écoutent les clients aussi, qui répondent aux aspirations des clients,
oui,
pour une viabilité, pour une certaine survie, pour qu'on puisse ensemble y aller. Et que l'État aussi cesse de faire la pression, surtout la commission bancaire et son histoire de BCAO là, que cesse de faire, de créer toute une tournée aux banques. D'accord. Parce que ça aussi, ça vient de là-bas.
D'accord, ok. Mabla, c'est vrai que quand on prend ces problèmes que les banques ont aujourd'hui, notamment Aura Bank et Sunu Bank, on pourra dire que ça n'apporte pas ou ça n'encourage pas la viabilité de ces banques.
Mais bien entendu, vous savez que en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, on nous a dit officiellement que le Togo est une plaque tournante en matière de banque. C'est justement la raison pour laquelle beaucoup de banques aimeraient s'installer ici. On a vu la floraison de ces banques chez nous depuis quelques années. En tout cas, si vous êtes togolais, vous pouvez vous quand même en être fier. Mais sauf que si Elon nous informe aujourd'hui que Aura Bank a déjà fermé certaines de ses agences.
Pas encore, ils ont dit le 31 janvier.
Le 31 janvier, ça,
ça se fera.
Ça se fera. Ils ont déjà annoncé. Donc,
mais
ça peut
changer d'avis aussi.
Oui, mais ce que je voulais dire, c'est parce que si la banque officiellement a fait une communication dans ce sens, c'est parce qu'en amont, il y a...
Les dispositions qui sont prises.
Exactement. Voilà. Et puis, il y a un constat qui a été fait. Voyez-vous, il y a un constat qui a été fait et a contraint justement les premiers responsables de Aura Bank et de Sonu Bank à prendre cette décision. Parce que en tant que banque, ce n'est pas de guetter, hein, n'est-ce pas, d'annoncer à sa clientèle que ben une partie de notre clientèle qui se retrouve sur telle partie du pays verra cette agence fermée. Ça voudra dire que ce n'est pas de bon cœur, mais ils sont obligés de procéder comme cela, peut-être pour assurer leur survie. Mais en même temps, je me pose la question, c'est vrai que c'est à partir d'un constat. Mais c'est quoi le constat? Je ne sais pas si l'homme qui maîtrise le dossier, les amis de la banque, ont annoncé vraiment ce qui s'est
passé. Non, officiellement, ils ne vont pas vous dire. Ils ne vont jamais vous dire. Mais de toute façon, oui.
Exactement, je présume que c'est parce que, bon, peut-être à un moment donné, s'il n'y a plus trop d'entrées, parce que la banque, c'est ça. La banque ne fabrique pas de... Voilà, ce n'est pas rentable.
Oui.
Maintenant, si ce n'est pas rentable, ça voudra dire quoi? L'argent ne circule pas dans le pays, en quelque sorte. Et ça, ça doit interpeller les premiers responsables. Parce que, nous l'avons toujours dit, pour qu'un pays puisse vivre véritablement bien, il faut qu'il y ait au moins trois classes. Et la grande classe moyenne doit être celle-là qui anime véritablement la vie, on va dire même sociale, économique du pays. Mais ici, c'est que cette classe-là, elle n'existe pratiquement pas. Et donc, c'est les mêmes personnes qui sont peut-être des clients de toutes les banques qu'on nous cite au pays. Mais à un moment donné, peut-être, quand ça ne circule pas trop bien l'argent, ils vont vouloir se contenter justement de une ou deux banques et les autres. Ils vont faire quoi? C'est peut-être ce qui amène justement à prendre cette décision.
D'accord.
Mais pour solution, parce qu'il fallait pas tout simplement accuser ou critiquer, mais pour solution, je me demande, mais quand on prend Sonu Bank par exemple, je crois que c'est calqué sur un modèle sud-sud, hein. À la base, ça doit être une banque sénégalaise, si je ne me trompe pas.
C'est,
voilà.
C'est une banque sénégalaise.
Voilà, c'est une banque sénégalaise. Ça voudrait dire que c'est un produit sous-régional.
Oh, oui.
Et
il faut l'encourager.
Il faut encourager ces initiatives locales, africaines.
Oh, oui, je suis d'accord.
Mais s'il arrivait que ces initiatives ont du pont dans l'aile aujourd'hui, l'UMOA, elle est là pourquoi? La BCAO, elle est là pourquoi? Je me pose des questions. Je ne sais pas s'il y a des actions qui étaient menées dans ce sens et qui n'ont pas donné de satisfaction, mais je me dis ailleurs, lorsque de grosses boîtes comme ça, qui participent à la vie économique d'un pays, d'une sous-région, est en difficulté, on pense à insuffler une nouvelle dynamique, de mettre des moyens là-dedans.
Ce que Magloire dit, ce n'est pas quand même... on peut le faire, mais si la gestion même de la boîte est un problème, je ne vois pas lui au moins intervenir. Si vous-même vous mettez de gros salaires aux DG qui sont à 20 millions par mois, attendez, 20, 22 millions par mois. Moi, je cite aucune banque, je dis seulement les choses, mais qui va vous sauver? Mais si vous voulez optimiser les ressources, optimisez-les. Mais si vous taillez la part du lion, vous laissez les autres en tout conforme, vous voulez que les gens fassent quoi pour vous? Vous c'est privé, vous gérez comme vous voulez. Si vous faites faillite, vous fermez, vous rentrez chez vous.
D'accord. Il faut dans tout ça, oui, reconnaître que le colon n'est pas loin. On parle de la commission bancaire, on parle de la BCAO. Et la BCAO est truffée de colons là-bas. Ils sont nombreux là-bas.
D'accord, je reste avec toi.
Je reste avec toi. On va parler politique là-bas. Il nous reste pratiquement 10 minutes. On va parler politique. Et politique, vous étiez intéressé à beaucoup de sujets, hein, politiques ce matin. D'abord, vous êtes intéressé aux élections sénatoriales. Vous écrivez élections sénatoriales, les dinosaures du défunt RPT en ordre de bataille aux grandes dames des jeunes du NEI.
Oui.
Là, vous vous intéressez bien sûr à la liste, alors de la candidature. Vous écrivez également l'Église catholique ouvertement contre un énième mandat de Paul Biya au Cameroun. Qu'en disent les églises catholiques et protestantes du Togo? C'est une interrogation. Et aussi en politique, vous écrivez renforcement des services de renseignement et protection des secrets de la défense, le régime fort bunkérise le Togo.
Oui, le régime fort bunkérise le Togo. Bunkériser, c'est contingenté, c'est tenaillé, c'est embrigader le Togo. C'est de faire en sorte que le Togo devienne une propriété
pratiquement privé. C'est-à-dire que quand on parle de renseignement, tout le monde sait ce qu'on appelle renseignement. Moi, je ne suis pas un agent de renseignement. Moi, nous ne sommes que des investigateurs, des journalistes. Mais on sait à peu près ce qu'un agent de renseignement. Ils sont là pour avoir des informations, pour protéger le territoire, protéger les citoyens et protéger tout ce qui est sensible dans le pays. Ici, c'est vrai qu'il y a une innovation dans le projet de loi qu'on a annoncé pour renforcer juridiquement le travail de tout ce qui doit entrer en tant qu'outil ou homme ou personne dans le travail des agents de renseignement. Mais il y a un autre volet qui est un décret qui parle de la protection du secret de la défense. Ça doit aussi inquiéter. Surtout, ça doit inquiéter. Inquiéter parce que le journaliste a souvent des informations. Le lanceur d'alerte a souvent des informations. Et là, un journaliste qui détient une information, peut-être avec des preuves à l'appui, s'il balance cette information-là et que demain on vous dise qu'il y a une loi qui dit que cette information-là est secret, est considérée comme secret d'État, secret défense, et qu'il publie. Et là, on vous dit, quand la chose est secret défense, l'autorité de régulation n'a plus, ça met en tant qu'institution indépendante. Mais est-ce que vous me suivez? Et donc, le métier de journaliste au Togo ne risque pas d'aller en péril avec ce qu'on nous amène là. Et quand on nous envoie souvent des choses comme ça, parce que le Parlement, elle est carrément urinisée, au point que toute loi, toute manière qu'on envoie là-bas, ça va être adopté. Et donc, c'est là, nous envoyons déjà notre crainte par rapport à ces deux corpus juridiques-là, à ces deux normes juridiques-là, d'abord le décret et le projet de loi. Et donc, renseignement, même une souris peut devenir renseignement dans ce pays. Une souris que c'est que dans ta chambre.
Mais est-ce que c'est seulement dans ce pays ou bien ailleurs aussi ça se passe?
Oui, j'ai parlé au départ. Le renseignement, c'est une bonne chose. Mais quand on l'utilise et on abuse, c'est là où ça devient un problème. Vous rappelez des problèmes de Pegasus dans ce pays, non? C'est le renseignement. Le Pegasus, c'est ce logiciel israélien que les gens ont condamné au Maroc et en France, qui espionne des gens et illégalement. Et donc, ça, le Togo en a été cité. Et donc, si on arrive à utiliser Pegasus et qu'on trouve à améliorer encore les renseignements, ça doit craindre. Donc, nous, on a essayé de soulever ça. Le deuxième sujet, concernant les dinosaures, il y a les Bitokotipu Yayinim, il y a les Baké, qui ont plus de 50, 60 ans de carrière politique. Depuis que Baké est ministre, moi, je ne suis pas encore né, et je suis là, j'ai plus de 50 ans, Baké est encore toujours là. Il est là au titre de ministre, et maintenant...
Est-ce que c'est pas parce qu'il a encore la force nécessaire pour servir le pays?
Mais il n'est pas le seul. Et les jeunes cadres qui sont dans UNI, ceux-là qui se disent, moi j'ai posé la question à certains jeunes, ils se disent cadres, ils ont mouillé le maillot lors des dernières élections législatives, des dernières élections conseillers de régionales et municipales, qui aussi sont prêts à aller au Sénat. D'abord, en la forme, le Sénat, nous on l'a qualifié d'une institution budgétivore et inutile, et on n'en a pas besoin, mais ça devient un reposoir, une chambre de remerciement. C'est la chambre haute du Parlement, en dehors de l'Assemblée nationale. Maintenant, ces gens-là qui sont fatigués, ils sont pratiquement octogénaires. Beaucoup approchent 80 ans. On les envoie là-bas. Déjà, ils vont aller là-bas dormir. Alors que le pays, ça veut dire qu'on ne se soucie pas du peuple. On veut des gens qui ont une vie. On veut des gens qui vivent, qui réfléchissent sur l'État, si tant est que ce Sénat-là est indispensable. Parce que pour nous, ce n'est pas indispensable pour l'opposition. Pour la majorité du peuple, ce n'est pas indispensable. Maintenant, pourquoi ce Sénat? Maintenant, quant à ce qui concerne l'Église catholique du Cameroun, avec les évêques qui ont fait des sorties osées, ouvertement, ils ont dit à Paul Biya de ne pas aller se présenter pour un mandat. Il y a un des évêques, celui de Ngaoundéré, ils sont nombreux, qui est allé m'aller lui-même, s'il préférait même le diable, pour venir gouverner, et on verra ce que ça va changer, au lieu que ce soit Paul Biya. Mais on s'est posé la question, si les évêques de là-bas ont fait ça au Cameroun, alors qu'il y a une similarité accrue entre les deux régimes, Cameroun et Togo, pourquoi les évêques togolais et les pasteurs de nos églises protestantes ne sont pas dans cette même lignée? C'est vrai, ils sortent des lettres pastorales, ils sortent des circulaires, mais qui ont une tendance diplomatique, mais qui n'ont aucun effet réel sur ce que le pouvoir fait, alors que l'Église a une mission sociale. L'Église a une mission sur ses citoyens, sur ses fidèles. Ils sont des centaines de milliers. D'accord. Qui peuvent impacter la vie politique du Togo
Et il appartient à cette église-là d'avoir peut-être de voir l'exemple du Cameroun.
D'accord. Oui, mais c'est vrai, nous allons nous intéresser plus à la décentralisation avec la prise de fonction des conseillers régionaux. Et c'était hier et je le disais dans mes mots introductifs, même d'ailleurs qu'il y a les membres du bureau du conseil régional maritime qui sont désormais installés. Oui. Et la surprise, c'est que l'Alliance nationale pour le changement qui était déclarée même en retrait du processus électoral à ses débuts obtient une place dans le dit bureau avec l'élection de M. Agbeko et Akladé, qui est candidat déclaré alors du parti ANC. Alors, et finalement, est-ce qu'il n'y a pas quand même alors de contradiction?
Oh, mais je pense que ce parti viendra lui-même dire ou sortir un communiqué pour expliquer ce qui se passe, parce que quoi qu'on dise aujourd'hui, personne ne comprend ce qui se passe au niveau de l'ANC. Mais toujours est-il que les membres de ce parti, il y a des membres qui pensent que bon, il est quand même réaliste d'adopter telle ligne plutôt que telle autre. Donc il revient quand même aux responsables de ce parti de pouvoir se prononcer, de clairement situer leurs militants par rapport aux problèmes réels qui se passent entre eux. De toutes les façons, c'est la politique, oui. Bon, maintenant, chaque parti est libre d'adopter la position qu'il souhaiterait. Mais on a constaté que oui, on a vu avec le cas Gomado, et on est en train de voir aujourd'hui avec le cas
Robert Olimpio,
avec Jean-Jacques Teco
aussi au niveau de la CENI.
Et donc, bon, je ne sais pas, c'est aux responsables de ce parti de pouvoir voir ce qui se passe et réorienter les choses s'il le faut, afin que, bon, il soit pas vraiment trop tard, parce que là, je crois que il y a beaucoup de dissidents qui sont en train de quitter les rangs, et bon, c'est à eux de voir ce qu'il faut faire pour pouvoir, et avancer. Bon, maintenant, sur le cas des élections, de la mise en place des conseils régionaux, c'est bien, et on constate que par rapport à la décentralisation, on a beaucoup de défis. On a mis en place, quoi, les conseils municipaux, après, on a mis en place les gouverneurs. Après les gouverneurs, on a les conseils régionaux maintenant. Et on a les présidents de conseils régionaux. Maintenant, on va passer à l'autre étape qui est le Sénat. La mise en place du Sénat.
L'élection, c'est
le 15 février. On va mettre en place le Sénat. Et après le Sénat, voilà, d'autres institutions. Et en fait, la question, c'est vrai, la décentralisation, c'est une bonne chose. Mais après, il faut se poser la question de savoir où est-ce qu'on trouve les ressources pour prendre en charge toutes ces personnes. Parce qu'au-delà de tout, c'est énorme comme charge. Et au niveau, c'est vrai que les institutions, comme vous le savez, c'est les institutions qui vont pouvoir travailler, qui vont faire ceci, mais les ressources, on va les trouver où pour pouvoir faire face à toutes ces charges? C'est quand même colossal de pouvoir faire face à toutes ces charges de façon mensuelle. Et au finish, voir aussi l'efficacité de cette décentralisation à travers la mise en place de ces institutions.
Mais quand vous parlez des moyens, est-ce que ce n'est pas parce que l'État est rassuré de ce qui est, les moyens, c'est pour qu'on avance?
moi, je ne veux pas parler à la place de l'État. De toutes les façons, je ne regarde pas dans la marmite comme l'État. Je suis citoyen aussi. Je suis membre du pays. Je regarde aussi. Je suis acteur de la nation. Mais on regarde de loin. On peut se poser des questions sur les ressources parce que c'est très important. On met davantage de ressources. Mais c'est pourquoi je dis, si on doit faire le suivi évaluation par rapport aux ressources qu'on y met, si on doit faire, on doit juger le ratio. Quelle est l'efficacité de ces institutions, de l'action de ces institutions? Il faut se poser des questions. Maire, oui, on en a besoin. Préfet, oui, on en a besoin. Gouverneur, conseillers régionaux, Sénat, vous voyez un peu le tableau.
Ça devient lourd.
C'est pourquoi je pose la question des ressources. Et quand vous regardez la question des ressources, posez-vous la question de savoir quelle est l'efficacité de toutes ces institutions aujourd'hui, surtout dans nos communes, dans nos préfectures, dans nos régions. C'est vrai que chaque personne, chaque acteur a son champ de définition. Chaque acteur a un domaine donné où il intervient. Mais il faut quand même faire l'évaluation de tout ça à un moment donné pour se dire les ressources que nous allouons par rapport à l'efficacité du travail qui se fait, on va faire un ratio pour voir si véritablement c'est vraiment bien ou c'est vraiment important de pouvoir aller vers la mise en place de ces institutions.
D'accord. Oui, Maroua, moi, je voudrais vraiment qu'on s'intéresse plus au parti ANC avec des dissidents déjà ces derniers temps. Mais est-ce que ça ne dénote pas d'une crise au sein même d'ailleurs de ce parti?
Non, je crois que ce débat, on l'avait fait il y a quelques semaines déjà. Et nous l'avions dit à l'époque que ce qui se tramait n'augurait pas quelque chose de bon pour l'avenir. Parce que la réalité, c'est quoi? L'ANC était aux élections législatives, avait un programme qu'il a exposé. L'ANC, jamais, en tout cas de mémoire de journaliste, n'avait pas eu connaissance du fait que l'ANC avait conditionné sa présence à l'hémicycle par peut-être un quota de voix. Ils sont allés voir les gens, accordez-nous votre suffrage. Lorsqu'on sera élu, on sera à l'Assemblée nationale pour vous défendre, pour vous représenter. C'est ce qui a été dit, je crois que c'est ce que tous les partis ont fait. Mais personnellement, on a été un peu surpris de constater que ben on dit parce que on ne siège pas. D'accord. Ça, c'est un parti responsable qui a pris sa décision. On prend juste acte. Mais la réalité, c'est que est-ce que ça va être comme ça jusqu'à X temps dans la vie? Et on l'avait dit à l'époque. Parce que juste après, on avait vu le cas Komado. Et en tant que journaliste, on a eu vent déjà du fait qu'il y a certains conseillers régionaux qui se préparaient à siéger. Vous voyez? Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, en réalité, ne surprend pas assez d'observateurs. Parce que quand vous analysez un peu, vous vous rendrez compte que forcément, il va y avoir des gens qui vont se mettre en marge de ce qu'a décidé le parti. Sauf que moi, je l'ai dit, en communication politique, on ne fait pas de désispot. Tu fais partie d'une formation politique qui a dicté ses règles. Soit ça te convient, tu restes là-bas, ou alors ça ne te convient pas, tu te retires, tu démissionnes et tu fais ton chemin comme tu veux le faire. Mais si tu restes au sein du parti et fais des choses contrairement à la ligne édictée par le parti, c'est ça le désispot. Et ce n'est jamais pardonné en politique. Et donc aujourd'hui, l'ANC a dit officiellement qui ne siège pas, et on l'a vu, il n'y a aucun député de l'ANC. L'ANC a dit qu'ils ne vont pas siéger au niveau des conseils régionaux, mais je crois savoir qu'au jour d'aujourd'hui, on peut quand même trouver un seul membre, ne serait-ce qu'un membre de l'ANC. Maintenant, quelle est la conduite à tenir? Est-ce qu'on va l'expulser? Est-ce que, voilà les réelles questions qu'on va se poser. Il y a également la question du sénatorial qui arrive. Est-ce qu'on ne risque pas de vivre encore les mêmes réalités lorsqu'on va parler des sénatoriales? C'est pour ça que nous disons oui, le parti, il est responsable de, ou bien le parti peut prendre des décisions, des directives, mais on doit être aussi prêt à assumer les conséquences. Donc, pour ce qui est de l'ANC, ben, c'est des militants. Si l'ANC n'est pas content de la présence de ces éléments au niveau des conseils régionaux, eh bien, qu'on les expulse selon ce que décidera le parti.
Mais si on n'aura pas trop d'expulsions quand même au sein du parti.
Ça voudrait, s'il y a trop d'expulsions, ça voudrait que au jour le jour, les gens ne sont plus d'avis avec la vision politique du parti. Donc, et si tel est le cas, il faut réorienter. C'est comme ça la politique. La politique, c'est un terrain assez dynamique. Et c'est une question de rapport de force. Vous pouvez décider d'une conduite à tenir, mais à un moment donné, compte tenu des éléments et forces en présent, vous changez. Ça n'a jamais été un crime politique. Ah oui, mais M. Gomado qui a été membre influent, M. Robert Olympio, ce ne sont quand même pas des nés de la dernière pluie. Mais s'ils décident à un moment donné de faire un chemin contraire à ce que décide le parti, c'est que quelque part, ils ont des raisons avancées et il faut avoir des oreilles pour les écouter.
D'accord, merci beaucoup, cher confrère. Nous allons maintenant donner la parole à nos... Mais finalement, vous êtes prononcé quand même sur beaucoup de sujets à la fois.
Et sur l'ANC, moi aussi, je vais me prononcer.
Rapidement, allez-y.
Et vous savez, je lis quelque chose dans la une de la manchette. Et Robert, c'est Robert Olympio qui dit...
Tout à fait, on en avait parlé hier.
Chez nous, c'est le narcissisme. C'est-à-dire, moi, je sais tout. Ce que je dis, c'est ce qu'on doit faire. Sans en dire tout. Il a aussi dit quelque part qu'il faut changer de stratégie. Hier, on faisait un débat sur une plateforme et certains parlaient de malaise. Il y a un malaise au sein de l'ANC. Et moi, j'expliquais que, en fait, ce malaise-là, c'est ce que essaie de expliquer M. Robert. Mais d'autres personnes aussi, connaissant bien M. Robert, connaissant sa famille, savent l'intérêt qui le guide à tempêter. C'est-à-dire que, à tempêter. M. Gomado a rejoint la barque bleue. Il appartient aussi à M. Robert de rejoindre la barque bleue s'il en a envie. Parce qu'on a vu son nom dans la liste des candidats au Sénat. Alors que le parti ne participe pas
au Sénat. Là où, se trouve le malaise, justement, c'est que ni lui ne sort un communiqué clairement qui dit qu'il démissionne. En plus, l'autre camp, c'est-à-dire que le parti aussi ne dit rien par rapport à ça. Et moi, je me pose la question. Y a-t-il une crainte que si Robert quitte, il va dire des choses que certains n'aimeraient pas parce que Robert est âgé. Et quand on est âgé, on... Oui, oui, il n'a rien à foutre à personne. Il peut déballer des choses.
Et c'est l'un des membres fondateurs même d'ailleurs du parti.
Oui. Sauf qu'il est âgé. Quand on est âgé, des fois on se respecte aussi. Il y a des choses qu'on n'a pas obligé de faire en public. Il suffit qu'ils disent à M. Jean-Pierre Pav, là où j'en ai fait là, c'est bon quoi. Donc je préfère aller me reposer. Et après deux semaines, si on entend qu'il est sénateur, c'est bon. C'est car s'il est même sûr d'être sénateur, qu'il est en train de parler. On se connaît.
D'accord.
Okay. Tu vas voir Robert, ne sois pas étonné de voir Robert, M. Robert Olympique sénateur. Hein.
D'accord.
Et donc, moi je souhaiterais qu'au-delà de tout ce que je dis par rapport à un vieux qui marmonne, qui dit des choses, que l'ANC aussi revoie dans sa case pour voir est-ce qu'il y a des choses à améliorer.
D'accord, nous allons maintenant nous donner la parole à nos auditeurs. Je sais qu'ils s'impatientent à rentrer en ligne pour participer à ce débat avec nous et également discuter alors de ces sujets hein, que dont nous avons parlé au cours alors de cette émission. C'est sur 90, 86, 37, 35, 91, 36, 63, 75. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs. 93.5. Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler sur le 90 86 35 35 91 36 63 75. Allô?
Oui, allô Pascal, bonjour. Allô?
Oui, bonjour.
Comment vous allez?
Comment vous allez? Ça va, chez vous?
Oh, ça va, ça va. Bon, je voudrais m'intéresser sur l'environnement. Où vos confrères, ils ont eu à discuter, même d'autres, il y a quelqu'un d'entre vous qui disait mais de nous montrer, nous donner le nom d'une commune, qu'on peut dire que c'est chic. Non, il n'y en a pas. Vous savez, je vous dis aujourd'hui, la beauté ou bien la capitale, c'est-à-dire que, je vous ai même pas dit sur le plateau ici, que vous me dites-moi, là où vous irez, monsieur Pascal, votre épouse et vos enfants, à un lieu où les enfants vont apprécier, il n'y en a pas. Bagida, Lomé, Adjibegon, à Sigane, Agoué, à Sigane, c'est ça. Vous voyez. Tout ça là, ce que vous êtes en train de dire concernant l'environnement, c'est quoi? C'est l'atterrant. Depuis des années, depuis plus de 50 ou 60 ans, où le Togo est sur un seul pied, un seul président. Vous voyez, c'est ça. Vous n'attendez pas un résultat. Voilà, il faut qu'il y ait de l'assurance. Ok, je m'arrête sur ce côté. Bon, je viens aussi sur nos papas qui ont donné leur nom pour le Sénat. Vous savez, j'ai un oncle qui a 82 ans à l'an. Quand vous allez, quand je suis allé à la maison le matin, il se réveille à 9h, 9h30, 10h. Alors que le Sénat pour siéger, quand est-ce que ce monsieur le vieux va se réveiller pour aller siéger, pour aller travailler? Mais écoutez, c'est que nos dirigeants ne pensent même pas à l'avenir quand même de la nation et à la population. Les gens ont pris le pays, c'est le bonheur, c'est l'heure, les gens ont pris le pays comme l'autre de privé, jusqu'à quand? Et ils ont le moins vite qu'à leur tour. Mais écoutez, ce n'est pas possible. Hein? C'est pas possible. On a jamais entendu une personne avec sa voiture, avec sa maison ou avec des débits dans son cercueil. Monsieur Bagnard est parti, il n'a rien pris. Le général aussi est parti, ils n'ont rien pris. Mon grand-père est demain parti, ils n'ont rien pris. Non, craignons Dieu, que Dieu bénisse le Togo.
D'accord. Merci beaucoup, Évangéliste Senghor, pour votre intervention. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Allô?
Oui, bonjour, mon grand frère Pascal.
Bonjour, comment vous allez?
Je vais bien, oui, chez vous.
Ça va aussi, par la grâce de Dieu. Votre nom, c'est...
Benoît, il s'appelle Dagoué Dimakwe.
Ah, Benoît Dagoué, allez-y.
Bon, moi, il faut qu'on change de mentalité. Diriger un pays, c'est affaire de mental. c'est pas affaire, c'est pas seulement affaire d'âge. Parce que depuis, disons que le régime a duré, le régime a partout. Aujourd'hui encore, disons que les sénateurs sont vieux. Ils sont vieux, mais quelles sont leurs capacités, leur intelligence, leur savoir-faire? Est-ce qu'on doit chercher? Vous avez dit que le budget, et vous savez, et depuis qu'on fait les élections présidentielles, on distribue les motos, les tricots, les t-shirts, les porte-clés. Est-ce que vous savez là où on trouve l'argent? Est-ce que c'est dans là ou bien c'est dans leur poche? En ce qui concerne l'ANC, je vais terminer là-bas. Vous savez, le cher président, M. Foy, il a bien si l'ANC va avoir, c'était l'ULC, était vraiment, avait fait l'accord, signé avec un programme, signé avec le RPT, s'ils avaient signé un accord, nous serons un pays bien dirigé aujourd'hui. Hein? À ce moment, ils n'ont pas changé de stratégie. Depuis là, ils n'ont pas fait sortir un communiqué. Parce que, ils peuvent changer de stratégie pour affronter l'UNIR. Merci et bonne journée.
Merci beaucoup, Benoît, pour votre intervention. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour, Canada FM.
Oui, comment vous allez?
Oui, c'est Natima.
Ah, Natima?
Oui.
Allez-y.
Je vous appelle de. Oui, moi, je voudrais intervenir sur les mairies. Oui. Effectivement, ce que vous avez dit, tout cela là-bas, moi, je vous tire le chapeau. Vous savez, les mairies, là, c'est l'Allemagne. C'est l'Allemagne qui a voulu que ça soit aussi comme ça pour suivre le gouvernement. Mais sauf que ces mairies, c'est trop. Et c'est la politique. C'est la politique qui les a amenés là-bas. Au moins, s'il fallait augmenter quelques mairies à Lomé, ça serait bon. Mais créer autant de mairies, pour faire quoi avec? On les a donné les voitures 4x4. Vous savez, pour faire vidange, les véhicules, là, vous savez combien ça coûte? C'est beaucoup d'argent. Maintenant, vous voyez, tout ce qui se passe, c'est la politique. Et regardez sur les rues. Les rues sont occupées, on met les briques, on vend le carburant, on met les étalages. Aucun maire ne peut dire. Mais ils vont y prendre l'argent. Les femmes qui vendent, on dit qu'en compromis de la voie, elles payent 500 par semaine. Tout ça là, on va où? On rançonne la population. On fait ça là pour tromper la population à la base. Et la population va pour voter. Vous savez, tout ça là, ça va nous rattraper demain. Ça a freiné. Aujourd'hui, Lomé, qu'on parle de Lomé là, c'est la poubelle. C'est la poubelle. Par rapport à Accra, par rapport à Cotonou, par rapport même à Ouaga. Mais on va où? Arrêtons ça. Il faut qu'on arrête ça.
D'accord.
Merci, bonne émission.
Merci beaucoup, Natema. Bonjour les amis. Ce qui se passe dans l'ANC aujourd'hui n'est pas un secret. Celui qui tue par l'épée périra par l'épée dans le temps de l'UFC. C'était la même chose. Des dissidents de l'UFC qui vont vers le RPT dans le temps. Je vous dis, l'ANC va subir plus pire que l'UFC. Attendez, vous verrez, c'est Dieu qui est fort. Bonne émission, c'est Monsieur Nyamaku. Allô?
Bonsoir, bonjour.
Oui, bonjour, Basile. Comment vous allez?
Ah, c'est bien.
Oui.
Je salue les confrères en studio.
Oui, allez-y, rapidement.
Bon, pour d'autres, je pense que c'est la première fois que je les rencontre en émission. Précisément, et l'homme. Bon, il n'a qu'à cesser de dire que quand le pouvoir offre l'addition à la population, il n'a qu'à cesser de dire que ce n'est pas au Togo seul. On s'en porterait mieux. Ok. D'accord. Et la vie chère dans notre pays, voilà. C'est dans ça nous sommes. Les fêtes là, c'est Dieu seul sait comment les Togolais ont fêté ça. Et on ne peut pas vivre comme ça.
Basile.
Oui.
Nous avons parlé des sujets bien précis.
Pardon?
Et je voudrais que vous vous intéressiez au sujet dont nous avons parlé.
Oui, mais je vous ai suivi de bout en bout. Hein.
Mais nous n'avons pas parlé. Oui, ben si vous nous avez suivi de bout en bout, nous n'avons pas parlé de Vichère. Mais votre radio fait un peu de bruit. Vous allez.
Non, j'ai aussi un moyen pour vous écouter mieux.
Non, mais comme ça nous gêne aussi.
Mais bon, je dis, moi je veux que la politique en général, aujourd'hui nous ne sommes pas dans quoi nous sommes. Et ça m'étonne que vous avez dit que vous n'avez pas parlé de ça.
Non, mais Basile, nous avons parlé des sujets. Oui, nous avons parlé des sujets.
Mais je dis, ça ne va pas. Les gens qui ne donnent pas la queue.
D'accord. Merci beaucoup, Basile. 90-86-35-35-91-36-63-75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour.
C'est M. Nyamavo.
M. Nyamavo, c'est
ça. D'accord, allez-y.
Oui, le régime est revenu dans le RPT pleinement. Ils sont dans leur coutume de ne rien laisser. Les vieux veulent mourir en travaillant. Ils veulent mourir les armes dans la main. Ils ne veulent pas céder la place aux jeunes. C'est naturel. Ça va bien pour la minorité. Vous avez suivi comment l'Assemblée nationale a modifié la constitution. Une minorité qui modifie la constitution au nom du peuple. Mais je crois savoir que l'UNIR dit que le peuple est derrière lui. Mais il craint de faire le référendum. Pourquoi? Ce n'est pas cynique. C'est très cynique. Bien, vous allez me répondre, vous allez analyser, voir comment le peuple est derrière moi et je ne veux pas aller demander ses voix pour changer la constitution. Ils ont commencé par changer la constitution là depuis 2002. La dernière fois, la CDA a fait pression. Ils sont revenus en modifiant encore la constitution. Ils sont repartis à zéro. Il faut reprendre le premier mandat en 2020. Patatras, ils ont vu que finalement, même jusqu'au nord, tout le monde est dégoûté. Et ils sont revenus avec la minorité à l'Assemblée nationale, pensant que c'est à l'opposition, les quelques têtes d'opposition là qui font du mal. C'est à tout le peuple qui sont fait le mal. En tout cas, la base est en train de s'élargir. Les vieux vont partir et la génération à venir, je ne sais pas s'ils vont les laisser. Bonne émission.
D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Nyamavo. Nous avons encore quelques minutes pour recevoir notre dernier auditeur pour le compte de cette émission. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Je vais bien.
Votre nom, c'est?
Cyprien.
Cyprien.
Oui.
Vous nous appelez de quel quartier?
J'appelle de Casablanca.
Casablanca, allez-y.
Oui. Bon, moi, ce qu'il y a, c'est que, bon, aujourd'hui, c'est vrai, vous êtes encore venu sur l'ANC et on vous taxe souvent que vous attaquez l'ANC. Mais je voudrais vous suggérer, pourquoi vous ne prenez pas souvent le débat dans l'inverse de voir un peu comment sont les Togolais, surtout les acteurs politiques, ou bien le Togolais même en général. Est-ce que c'est l'ANC qui a des problèmes ou bien c'est des gens qui ont d'autres mentalités, d'autres intérêts, et qui font que, vu qu'ils sont de ces partis-là, chacun joue sa carte, des gens ont des objectifs. Ils ne sont pas ministres. Ils voient que ce pouvoir est là, est fort, et dans combien d'années encore je vais encore vivre tout ça. Il faut que je casse tout, moi je m'en vais. Est-ce que vous ne voyez pas un peu comment est-ce que les coalitions aussi ont marché? L'intérêt personnel, les gens qui n'ont pas les mêmes objectifs. Parfois, on peut être fermé ensemble, mais non, comme on dirait un chrétien qui n'a pas peur du vaudou, parce que le vaudou tue rapidement, mais Dieu ne tue pas vite, ben on se dit, on prend les décisions comme on veut, et parce que qu'est-ce qui va se passer? Moi, je m'en vais, j'y vais. Est-ce que nous n'allons pas prendre la chose comme ça? Tout à l'heure, il y a Magloa qui a bien analysé. Et les gens, ils sont libres de quitter des partis politiques, mais on ne peut pas être toujours là et dire qu'on ne quitte pas, mais qu'on fait ce qu'on veut. Il faut quitter et aller faire ce qu'on veut. Maintenant, les gens sont... En guillemets, le Togolais n'a pas honte. Le politicien togolais. Est-ce que vous ne prenez pas langue sur ça? Est-ce que, même si l'ANC a des problèmes, comme toute organisation qui peut avoir des problèmes, est-ce qu'on peut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-bas, ou bien parce que c'est des narcissiques qui sont là-bas, comme quelqu'un le dit?
D'accord.
Est-ce que ce n'est pas le Togolais même qui trahit,
qui fait beaucoup de... Je ne sais pas comment, j'ai mal au cœur.
D'accord, merci beaucoup Cyprien. Prenez de l'eau fraîche à côté et je pense que ça vous fera du bien aussi. Cyprien, c'est le dernier auditeur pour le compte alors de cette émission. Je lis ses réactions rapidement avant quand même de faire un tour de table pour clôturer l'émission. Bonjour à tous. Le ministère n'a pas besoin d'arrêter, mais plutôt alors d'une actualisation du code de la route et de réhabiliter tous les panneaux de signalisation, sans oublier les feux tricolores. Pour finir, une police routière forte et non corrompue. Les amendes doivent rentrer dans les caisses de l'État et pas dans leur poche. Et merci à vous. C'est Maglibet depuis Belgique et qui nous écrit. Et c'est une réaction, bien sûr, alors de cet auditeur. Bonjour, Canal FM. Je ne pense pas que c'est parce que l'argent ne circule pas que certaines agences de Aura Bank et Sounou FM. Non, Magloire, ce n'est pas cela. Et c'est également un autre auditeur qui nous a écrit, bien sûr. Alors, nous revenons en plateau pour faire un dernier tour de table et clôturer l'émission. Et là, vous avez écouté les uns les autres se prononcer sur l'actualité telle que nous l'avons débattu ici.
Oui, comme d'habitude, il y a certains qui n'ont pas suivi, mais qui nous ont fait croire qu'ils ont suivi. Moi, quand certains auditeurs interviennent, nous, ça nous fait sourire. Vous savez, c'est pas la peine de vouloir forcer à entrer en ligne sans avoir suivi le débat, sinon vous allez être à côté de la plaque. Quand les gens appellent, ils disent que oui, tel a dit tel a dit ceci. Vous avez parlé de Vichère. Où est-ce qu'on a parlé de Vichère ici? On a fait 60 000, on n'a jamais parlé de ça. Donc, il faut que certains auditeurs soient disciplinés. Quand vous appelez, quand vous n'avez pas suivi l'émission, ne venez pas rentrer dans un débat par effraction. Les gens sont en train de discuter, vous venez, puis vous commencez à parler, quoi. C'est de l'indiscipline. Et c'est ça qu'on appelle l'incivisme aussi. C'est pas sérieux. Donc, soyons responsables, soyons disciplinés. Avant d'appeler, sachant sur quel sujet, sur quel point nous voulons intervenir, parce que nous qui sommes ici, on a donné notre avis sur des sujets donnés. Il faut que les gens appellent pour se prononcer sur des aspects donnés et non pour on rentre du champ, on rentre dans une discussion comme ça, un peu comme on est au cabaret, quoi. Ça ne se fait pas. On est dans une émission responsable et respectée. Donc soyons tous citoyens, faisons preuve de civisme et respectons quand même le vis-à-vis que nous avons.
D'accord. Merci beaucoup. Et l'homme, oui, Magla.
Non, je crois que ça fait une très belle interaction entre nous et les auditeurs, sauf que on doit s'écouter, s'entendre. Et je remercie aussi l'auditeur qui, parlant justement des hypothèses qui pouvaient amener à la fermeture des banques, m'a rappelé que non, pas parce que l'argent ne circule pas, que le problème serait ailleurs. J'ai pris acte. Et c'est aussi ça, le club de la presse. On ne connaît pas tout.
On n'a pas la science
des analyses, justement. Oui. Maintenant, pour finir, je dis, nous sommes de plein pied dans le processus de mise en place du Parlement. On l'a dit, ça fait quoi? L'Assemblée nationale, le Sénat, qui forment le Parlement. Oui. Aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire au premier responsable du PS, c'est de tout faire pour évacuer très vite ce processus, parce que en tant que citoyen, on a quand même horreur de voir des ministres, à la fois députés et ministres, des directeurs de sociétés qui sont des députés, parce que sous le vocable des dispositions transitoires. Donc, j'ai envie d'exhorter tout ce beau monde à faire vite. Entre-temps, le Mimbara avait parlé de mois de mai, mais je crois que le chef de l'État, l'autre fois, lui parlait beaucoup plus de février. Tout compte fait, il faut aller vite. Et pour qu'on ait quelqu'un, on ne peut pas être député, ministre, on ne peut pas être directeur de société et député dans un pays. Alors ça fait un peu des hommes, mais on nous rassure que c'est parce qu'il y a des dispositions transitoires qu'on vit ça. Mais sauf que ce n'est pas bien pour que ça dure dans le temps.
D'accord. Merci Magloire. Oui, Ambroise.
Oui, ça y est, ce qu'il dit me renvoie à un fait constaté. J'ai vu une plaque sur laquelle j'ai vu l'effigie du photo de Fonia Singbe, président du Conseil des ministres. Je ne sais pas si quelqu'un aussi l'a vu.
Je l'ai vu aussi, personnellement.
Quand j'ai vu ça, j'ai eu la frisson. Je ne sais pas ce qui se passe dans ce pays. Et je ne sais pas. C'est-à-dire que j'ai comme l'impression que le Togo... Le Togo est un territoire privé. Je ne sais pas si ça existe en droit, mais on dit d'envoyer le Togo dans...
dans un canevas de territoire. Parce que tout ce que Mangoua vient de dire, les gens avancent, ils disent qu'ils sont dans une période transitoire. Moi, j'attends de voir la finition, l'échéance de cette période transitoire pour voir si on sera encore, on ne va pas encore voir les mêmes choses de la période transitoire. Ça veut dire que les noms peuvent changer, hein. On peut avoir le président du conseil, tout ça là. Et on peut avoir le Sénat, tout ça. Et il y en a aussi, même certains membres de la Haki n'ont pas encore rejoint le truc là. Il y a plein de choses. C'est d'ici le mois de mai. Je priais Dieu de nous donner la vie pour voir ensemble ce qui va se passer.
D'accord.
Okay. Parce que la 5e République, c'est doux.
Vous avez commencé par l'expérimenter déjà.
Oui, vous ne voyez pas plus, c'est doux. Même si c'est l'ironie, je voudrais qu'on dépose les yeux pour voir ce qui va se passer.
Ok, merci beaucoup Ambroise Ponzo d'être passé dans cette émission. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du Journal des Guadiens. Merci Elom Kossi Atisobe d'être passé dans cette émission. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal La Nouvelle Tribune. Et merci Magloa Kinviteko, rédacteur en chef alors du journal Flambeau des Démocrates. Merci d'être passé dans cette émission et bien de choses également au directeur de publication du journal Loïc Lorsa, qui nous écoute fidèlement dans cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis, vous qui nous avez appelés aussi, grand merci à vous. Merci à Michel Tomega qui a assuré la mise en onde. La mise en ligne a été assurée par Jérôme Dakoucha. Je suis Pascal Loussou. Je vous retrouve demain vendredi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.